ces temps archaïques, il y a plus de 1200 fois 1200 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de roseaux, pas de genévriers. La terre n'avait pas de nom. Le ciel n'était pas nommé. En ces temps-là, il n'y avait rien que l'eau douce et l'eau salée. L'eau douce absout le fougueux. L'eau salée, Tiamat, la belle Tiamat. Et comme il n'y avait que l'eau douce et l'eau salée, en ces temps-là, l'eau douce et l'eau salée ont mêlé leurs eaux. Alors bien sûr, Apsu et Tiamat se sont aimés et ils ont fait de l'écume. Et puis le temps a passé, les eaux étaient mêlées et il y eut naissance. Deux serpents, un mâle et une femelle. Alors bien sûr, comme il y avait un mâle et une femelle, les deux serpents ont emmêlé, entremêlé leurs anneaux, se sont enlacés, embrassés lascivement, et il y eut naissance. Ils ont donné naissance au monde d'en haut et au monde d'en bas. Mais comme le monde d'en haut et le monde d'en bas se touchaient, ils se sont frottés. Ils se sont frottés, frottés, frottés encore pendant 1200 ans et ils ont donné naissance. Au premier des petits dieux, il s'appelait Anu. Anu, le premier, le père de tous les dieux. Et puis, il y eut aussi Ea, oh celui-là, drôle de dieu. Mi-chèvre, mi-poisson, Ea. Il était dieu de la sagesse. Et puis, il y eut Enlil, Ishtar, Shamash, Haruru, enfin, des tas de dieux et de déesses. Il y en avait de partout, il y en avait des grands, des petits, il y en avait des gras, il y en avait des maigres, il y en avait de toutes sortes. Ils étaient là, ils se sont vus, ils se sont connus, ils ont commencé à se parler. Ils faisaient beaucoup de bruit, tous ces petits dieux-là. Surtout qu'ils ont commencé à bavarder, puis même ils sont allés jusqu'à disputer. Oh, parfois, ils ont braillé. Là, c'en était trop. Apsu avait vieilli. Les dieux faisaient trop de bruit. Apsu était agacé. Apsu était excédé. Alors il est allé trouver son épouse bien-aimée Tiamat et il lui a expliqué qu'il n'en pouvait plus. Le jour, il ne pouvait pas se reposer. La nuit, il ne dormait pas à cause du bruit de tous les dieux. Alors, il fallait arrêter. Eh bien, pour arrêter, ils savaient très bien qu'il n'y avait qu'une solution. Il fallait tous les supprimer. Il fallait les détruire. Tiamat l'écoutait. Paisible. Et pourtant, elle a vociféré. Comment ? Tuer ce qu'on avait créé ? Ah non ! Ce que Tiamat et Apsu ignorait, c'est que Ea, le dieu de la sagesse mi-chèvre mi-poisson, lui, il savait la menace qui pesait sur eux. Alors, Ea, il a convoqué tous les dieux et il leur a expliqué. Et puis, Anu, le premier, le père de tous, il s'est tapé sur la cuisse et il a mordu sa lèvre, comme lorsqu'il réfléchissait beaucoup. Et ils ont su ce qu'ils allaient faire. C'est Ea qui est partie, en Apsu. là où vivait Apsu, Apsu le fougueux. Il est allé le trouver, il est entré dans sa demeure, il a commencé à lui parler. Et puis, il a usé de son charme auguste. Et puis, il lui a fait boire un philtre qui lui a permis de se reposer. Enfin, Apsu s'est endormi. Une fois Apsu endormi, Ea s'est approchée de lui et lui a ôté de sur la tête son éclat surnaturel, ce qui lui donnait tout pouvoir. D'ailleurs, Ea, il l'a mis sur sa tête à lui, l'éclat surnaturel. Maintenant, Apsu ne pouvait plus rien. Alors, Ea, pour protéger les siens, il est allé jusqu'à tuer Apsu. Et puis, il s'est installé dans sa demeure. Un beau palais, le palais d'Apsu. Il y avait une chambre conjugale. Ea a fait venir son épouse bien-aimée. Ils sont entrés dans la chambre. Ils y sont restés le temps qu'il fallait et il y eut naissance. À celui-là, il n'y a pas de nom pour le décrire. Tellement beau qu'on ne peut pas l'imaginer. Marduk. Marduk le sublime, Marduk le seigneur. Il avait la lumière de 10 dieux réunis. 4 était le nombre de ses yeux. Il avait 4 oreilles, Marduk. Qu'il était beau, tellement beau qu'on ne pouvait pas le regarder. Alors bien sûr, tous les dieux se sont réjouis, ont fêté Marduk, Marduk, le fils d'Ea et de son épouse, et surtout le grand-père, Anu le premier, à lui, il eut l'idée de faire un beau cadeau à Marduk. Il a créé les vents, tous les vents, les petits, les zéphyrs, et puis les grands, les ouragans, les typhons, les tornades, et il les a offert à Marduk pour jouer. Eh bien, Marduk a joué. Il a joué avec les petits et puis les grands. Les zéphyrs et puis les ouragans et puis les vents ont venté, ont soufflé, ont tornadé, ont tempêté et les vents ont troublé l'eau salée. Les vents ont fait houle, tempête. Les vents ont troublé la vieille Tiamat, la veuve d'Apsu, tant que ça l'a excédée. Et là, elle a parlé à ceux qui l'entouraient. Ils étaient d'accord. Il fallait faire la guerre contre les dieux. Bon, Tiamat a réfléchi. Pour faire la guerre, il faut des guerriers. Qu'à cela ne tienne, Tiamat a donné naissance à des guerriers. Incroyable! Des monstres! Des taureaux à 4 gueules! Des chiens à 4 corps! Des lions monstrueux, des bisons, des molosses aux dents acérées. Il y avait des hydres à 120 gueules qui crachaient le feu, et sur chacune de ces gueules, il y avait 120 paires de cornes. Il y avait même quelques léviathans. Enfin, il y avait 11 sortes de guerriers monstrueux. Mais pour faire la guerre, il faut un général. Alors Tiamat a donné naissance à un dernier monstre qui était plus monstrueux que les 11 monstres monstrueux. Elle l'a appelé Kingu. Il était tellement laid qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Kingu, le général de l'armée de Tiamat. Ce que Tiamat et son général ne savaient pas, c'est que Ea, savait. Et il se préparait. Il avait convoqué tous les dieux. Il y allait y avoir la guerre. Qui allait affronter Tiamat et son armée? Anu, le premier, a frappé sur sa cuisse, a mordu sa lèvre, et tout le monde s'est tourné, Ea, le premier, vers le Seigneur, vers le sublime, vers Marduk. C'est lui qui était seul capable d'affronter l'armée de Tiamat. Marduk a accepté, à une condition. Il voulait simplement que s'il affrontait Tiamat et s'il gagnait, il voulait tout simplement tous les pouvoirs. Accordé. Alors Marduk s'est préparé. Un arc, une flèche, un filet et tous les vents que le grand-père lui avait donnés. Et il est parti en direction de la demeure de Tiamat. Et petit à petit, en s'approchant de la demeure de Tiamat, il entendait gronder, mugir les monstres de l'armée de Tiamat. Mais lui, il avançait, tranquille. Et quand il aperçut Tiamat, il a lancé tous les vents qui sont allés à l'avant-garde et qui ont un peu plus agacé Tiamat. Ça l'a énervé. À ce moment-là, Marduk, il a pris son filet et il l'a lancé sur la gueule de Tiamat, à l'immobiliser. Alors là, Tiamat, elle était tellement excédée, elle avait envie de mordre. Elle s'est tournée dans la direction de Marduk et elle a ouvert grand sa gueule. C'est ce que Marduk attendait. Tiamat était tournée vers lui, la gueule ouverte. Alors Marduk a ordonné au vent d'entrer dans cette gueule-là. Et les vents sont descendus dans le gosier de Tiamat. Et les vents sont descendus dans le ventre de Tiamat. Et le ventre de Tiamat a gonflé, gonflé, gonflé. Tant Marduk était prêt, son arc était bandé, la flèche est partie, droit vers le centre du ventre gonflé de Tiamat, juste là où maintenant tous on a un nombril. C'est à cause de cette histoire-là. Parce que la flèche, elle est entrée au centre du ventre de Tiamat. Et le ventre de Tiamat, il a éclaté, explosé. Les entrailles de Tiamat ont jailli de son ventre. Et la vieille Tiamat, elle a titubé. Elle s'est couchée. Elle était morte. Tiamat était morte. Alors Marduk, il le devait pour les siens. Il a tué tous les monstres de l'armée de Tiamat. Non, pas Kingu. À Kingu, celui-là, il l'a gardé. Il lui a mis un anneau au nez, comme on faisait en ce temps-là aux esclaves. Et il l'a attaché avec une laisse. Et puis Marduk a pensé qu'il devait faire quelque chose de merveilleux avec tout ça. Et il l'a fait. La dépouille de Tiamat était allongée. Alors Marduk, il a pris une lame et il l'a tranchée en deux comme on fait d'un poisson qu'on voudrait faire sécher. Avec sa tête, il a formé le ciel. Avec sa croupe voluptueuse, il a fait la terre. Avec ses belles mamelles, il a fait toutes les montagnes. Et puis il a continué. Avec son sang, il a fait les rivières. Ses cheveux, ont formé la végétation. Oh, puis le ciel, il fallait un peu le décorer. Alors il a pris les dents de Tiamat et il en a fait toutes les étoiles. Manquait la lune ? Il a pris le foie de Tiamat et il en a fait une lune bicornue de brillance. Et il lui a bien expliqué à la lune qu'il fallait prendre 7 jours pour grandir jusqu'à moitié, puis 7 jours pour grandir jusqu'à la plénitude, et puis encore 7 jours pour diminuer, et encore 7 jours pour devenir juste un petit croissant fin. Et puis, Marduk, il a fixé l'année avec les saisons. Maintenant, il avait fini. Il est retourné chez ses pères pour festoyer. Voilà. La terre avait un nom, et le ciel, et les étoiles, et la lune, enfin, tout était créé. Enfin, tout. Ils se sont installés. Tiens, à nous, le père de tous, il est devenu Dieu du ciel. C'est une déesse qui est devenue maîtresse du monde d'en bas, Ereshkigal, déesse de l'enfer. Enlil, lui, Enlil le preux, est devenu dieu de la terre et de l'air. Ea était dieu de la sagesse. Ishtar, elle était déesse de la vigne, mais elle trouvait qu'elle n'avait pas beaucoup de responsabilités. Ça ne lui plaisait pas bien. Et puis Shamash, dieu du soleil, et puis tous, avaient de quoi faire. Il y avait les Igigi, c'étaient les petits dieux, les dieux célestes. Ils étaient entre la terre et le ciel. Et puis les Anunnaki, les grands dieux, ils étaient sous la terre, vers l'eau douce et vers l'Apsu. Et il était convenu que les Igigi devaient travailler pour les Anunnaki, les petits dieux pour les grands dieux. Travailler, c'est-à-dire creuser la terre, faire des canaux, l'irrigation, et puis cultiver la terre, et puis en fait, donner de quoi manger aux grands dieux. Voilà comment tout était organisé.